Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Un éclat de grenade ou un tir de flashball pour le gilet jaune Jérôme Rodriguez, gravement blessé à l'œil hier à Paris. Les policiers l'ont délibérément visé. Pour le secrétaire d'État à l'intérieur Laurent Nunez, rien ne permet d'affirmer qu'ils ont fait usage d'un lanceur de balles de défense. Jean-Luc Mélenchon demande la démission de Christophe Castaner. Mi-fig, mi-raisin, le défilé des foulards rouges. Quelques milliers de manifestants à Paris contre les violences et pour la défense des institutions et quelques élus de La République En Marche qui se sont fait discrets. Il n'y aura pas de nouvelles élections au Venezuela. Le président Nicolas Maduro rejette l'ultimatum des pays européens qui menace de reconnaître officiellement son rival Juan Guaido. Dans ce journal également, la grippe qui tue 6 personnes en 15 jours dans un centre de soins du Loiret, des personnes âgées notamment. La mort d'Henri Chapier, ancien critique de cinéma, créateur de l'émission Le Divan. Les Bleus, médaille de bronze au Mondial de Hand, ils ont battu l'Allemagne 26-25. Djokovic, intraitable en finale de l'Open d'Australie, il bat Nadal en 3-7. Dans le top 14 de rugby, victoire de Toulouse sur Grenoble, 29-16 de Toulon sur le Stade français, 33-30. Et puis en Ligue 1, Montpellier bat Caen 2-0. Lyon l'emporte à Amiens 1-0. Le journal des sports avec Fabrice Rigobert dans un instant. Enfin, la météo, ciel perturbé sur la plupart des régions. Demain, 4 départements des Pyrénées en vigilance orange aux avalanches.
France Inter.
Quelques milliers de foulards rouges sous la pluie à Paris. Ce n'est ni un flop ni un formidable succès pour le mouvement citoyen de défense de la démocratie et des institutions. 10 000 personnes avaient annoncé en ligne leur intention de manifester, non pas contre les gilets jaunes, mais pour dire stop aux violences. On dira que le défi a été relevé pour les organisateurs qui souhaitaient éviter toute récupération politique, à l'instar d'ailleurs des gilets jaunes. La République En Marche avait d'ailleurs décidé de se tenir officiellement à l'écart de ce rassemblement dans lequel auront été aperçus quelques élus venus à titre privé, Yann Gallic.
Des élus de La République En Marche qui se sont fait discrets. Ils étaient une vingtaine tout au plus dans le cortège des foulards rouges qui a défilé entre les places de la Nation et de la Bastille. Stop aux violences, sauvons la République, non au populisme et à l'intolérance. Voilà quelques-uns des slogans scandés par les manifestants comme Christine.
Partout, on nous explique qu'il y a 80% des Français qui sont d'accord avec les gilets jaunes. C'est pas ce qu'on ressent autour de nous. Donc on se demande un peu ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut être d'accord avec le fait que les gens n'acceptent pas la démocratie? Je peux pas comprendre.
Dénonçant les violences policières, une poignée de gilets jaunes étaient présents le long du parcours pour tenter de discuter avec les foulards rouges. Un dialogue difficile, voire impossible.
Quand est-ce que Castaner, il les prend en compte, ces gens qui sont mutilés? Quand est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le ministre de l'Intérieur, mais...
Ils sont un peu remontés, monsieur, contre ce petit groupe de gilets jaunes.
Ouais, parce qu'ils viennent nous provoquer, ils disent que c'est une manifestation qui est alimentée par Macron. Moi, je suis pas macroniste, hein. Je viens juste aujourd'hui défendre la République, quelque part, dire non à la violence, dire non à un mouvement qui dure depuis trop longtemps, à mon sens. Moi, j'ai une certaine vision de la démocratie, qui n'est pas celle des gilets jaunes, des manifestations pendant des mois et des mois, alors qu'il y a eu des concessions de fait, je ne suis pas d'accord.
Et s'il le faut, certains foulards rouges sont déjà prêts à redescendre dans la rue pour faire entendre leur voix face aux gilets jaunes.
Yann Gallic avec Arthur Gerbeau. Un éclat de grenade ou une balle de flashball? La grave blessure à l'œil du gilet jaune Jérôme Rodriguez reste ce soir inexpliquée. Il était en train de filmer la manifestation d'hier, place de la Bastille à Paris, quand il s'est écroulé. La vidéo ne permet pas de déterminer avec certitude quel projectile l'a frappé. Lui dit avoir reçu une grenade à ses pieds et une balle dans l'œil et n'a pas de doute sur le déroulé des événements, comme il l'a dit à Gaël Joly.
Je tiens à préciser qu'une grenade, ça déchiquette, d'accord? Ça met la peau en lambeaux. Je n'ai pas l'œil en lambeaux. J'ai bien un impact de balle sur l'œil. C'est bien un LBD-40 qui m'a touché. La balle ayant été retrouvée est partie sous scellé pour analyse. Je pense que le policier qui m'a tiré dessus, je pense qu'il l'a fait volontairement. Puis il a super bien visé parce qu'il m'a quand même touché l'œil. Donc je pense que c'était intentionnel. Pour ma part.
Pour son avocat, Maître Deveul, qui dit avoir porté plainte, les éléments matériels sont accablants. La police des polices a été saisie. Alors que sait-on précisément ce soir, Sarah Guibaudot?
Eh bien, on reste sur deux hypothèses opposées. Jérôme Rodriguez, on l'a entendu, est convaincu d'avoir été touché par un lanceur de balles de défense, par les caractéristiques de sa blessure, et parce qu'un témoin a rapporté à sa famille une munition en plastique et caoutchouc. Mais ce soir, le secrétaire d'État à l'intérieur a fait état des premières remontées d'informations policières et il exclut le tir de LBD. Laurent Nunez, il y a un instant sur LCI.
Nous voyons à l'image, et depuis un policier a produit un rapport, un policier a projeté une grenade de désencerclement dans le périmètre dans lequel se trouvait Monsieur Rodriguez. Au moment où je vous parle, je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché Monsieur Rodriguez.
Laurent Nunez précise qu'hier à Paris, il y a eu au total 32 tirs de balles de défense et que tous ces tirs ont été filmés par les caméras piétons que portaient les policiers. L'enquête de l'IGPN permettra peut-être de trancher assez vite. Le projectile retrouvé sera analysé. Les vidéos des caméras de la ville de Paris permettront d'avoir une vision plus large. On verra par exemple si des casseurs s'étaient à ce moment-là placés derrière ou à côté de Jérôme Rodriguez. Car grenade ou LBD, c'est surtout les raisons de ce tir qu'il faudra déterminer.
Quoi qu'il en soit de l'enquête, l'affaire relance la controverse sur ces fameux lanceurs de balles de défense, dont beaucoup, la Ligue des droits de l'homme, la CGT ou la France insoumise, demandent l'interdiction. Ce soir, ça va plus loin. Pour Jean-Luc Mélenchon, notamment, les policiers appliquent les ordres qui leur sont donnés. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, doit démissionner. Laurence Perron, les gilets jaunes, les plus déterminés et leur soutien vont bien sûr essayer de surfer sur les images de ces manifestants blessés.
Oui, et des images qui viennent augmenter le décompte assez lourd des victimes de ces armes, le lanceur de balles LBD-40 ou les grenades de désencerclement Gli F4. Sur Twitter, le documentariste David Dufresne a lancé ce hashtag « Allô Place Beauvau », c'est pour un signalement. Mediapart le publie. Depuis le début du mouvement, les gilets jaunes, eh bien, il y a eu 337 signalements, un décès, 4 mains arrachées, 151 blessures à la tête et 18 éborgnés, dont Jérôme Rodriguez, la France insoumise. En parle et elle défendra donc mardi à l'Assemblée nationale un amendement dans le cadre de la loi anticasseurs pour faire interdire ces armes. Et pas question pour les députés de Jean-Luc Mélenchon de faire porter le chapeau aux policiers ou aux gendarmes. Il réfute le mot bavure. C'est à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, de prendre ses responsabilités. Alexis Corbière, député de la France insoumise.
Derrière le cas de Jérôme Rodriguez, je n'accepte pas le mot de bavure, car une bavure, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Là, c'est une répétition de blessure. Donc, je le dis clairement, monsieur Castaner, démissionnez. Soit vous êtes un ministre de l'Intérieur potiche qui est là uniquement pour faire la communication macronienne et dire aux forces de l'ordre, continuez, je vous couvrirai quoi qu'il arrive. Soit vous êtes un homme politique qui a une responsabilité sur ce que fait la police.
Et c'est la première fois que la France insoumise exige la démission d'un ministre. Elle est rejointe d'ailleurs par le NPA d'Olivier Besancenot. L'opposition de gauche pour le moment ne s'est pas exprimée sur le sujet.
De son côté, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, prend la défense des forces de l'ordre en demandant de ne pas confondre l'usage légitime de la force et la violence. Les forces de l'ordre, dit-il, agissent dans le respect de la loi. Ce ne sont pas des policiers qui jettent des boules de pétanque et de l'acide. Foulard rouge, gilet jaune et slogan vert pour les marcheurs du climat. Ils ont été plusieurs milliers à Lyon pour faire une chaîne humaine. 2000 à Grenoble, plusieurs centaines à Toulouse, où le jaune s'est d'ailleurs parfois mêlé au vert. À Bruxelles, ce ne sont pas moins de 70 000 personnes venues de toute la Belgique qui ont défilé pour le climat. Les grands patrons français devront être fiscalement domiciliés en France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'avait déjà évoqué, il le confirme, la mesure sera inscrite dans la loi. Bruno Le Maire, invité de questions politiques à midi sur France Inter, a réagi au cas de Carlos Ghosn, l'ex-PDG de Nissan Renault, dont Libération avait révélé début janvier qu'il était exilé fiscal aux Pays-Bas depuis 2012. Carlos Ghosn, dont le ministre ne comprendrait pas par ailleurs que lui soient versées des indemnités de départ exorbitantes, la CGT avance une somme de 25 à 28 millions d'euros. Je ne m'en laisserai pas compter par les autres actionnaires, explique encore Bruno Le Maire, qui s'est aussi exprimé sur le dossier Alstom, l'entreprise du ferroviaire que le gouvernement voudrait fusionner avec l'allemand Siemens. Plus rien ne justifie, selon lui, que l'Union européenne s'y oppose. Manuel Ruffès, les deux groupes ont fait de nouvelles propositions.
Mais oui, une nouvelle proposition. Vendredi dernier, au 110e jour de la procédure d'examen, bien au-delà des délais habituels, et ça, c'est la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, qui le fait bien remarquer. Mais enfin, voilà, ces concessions, elles sont là, sur le bureau de la Commission européenne. Il est donc question de davantage de partage de technologies, de céder aussi des activités de signalisation et de matériel roulant. Et donc pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, plus rien ne s'oppose désormais à la création d'un champion européen du ferroviaire.
Vous avez un géant chinois qui a émergé en 15 ans. Et nous, on continuerait à appliquer des règles qui datent du XXe siècle. Alstom et Siemens viennent de faire de nouvelles concessions à la Commission européenne pour réaliser cette fusion entre Alstom et Siemens et créer un champion européen du ferroviaire. Plus rien, je dis bien plus rien. ne justifie aujourd'hui un refus par la Commission européenne de la fusion entre Siemens et Alstom.
Et la Commission européenne doit rendre son avis d'ici le 18 février prochain, d'ici donc 3 semaines. Ce sont ensuite les différentes autorités nationales de la concurrence qui se pencheront sur cet avis.
Le journal de 19h sur France Inter.
Au Venezuela, la fin de non-recevoir de Nicolas Maduro, le président vénézuélien rejette l'ultimatum que lui ont lancé quelques pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, qui lui demandaient d'annoncer de nouvelles élections dans les 8 jours, faute de quoi ils reconnaîtront officiellement son adversaire Juan Guaido comme le nouveau président du pays, lequel Guaido, actuel président de l'Assemblée nationale, a offert ce week-end l'amnistie à tous les militaires qui le rejoindront. Benjamin Delisle à Caracas.
Ce n'est pas vraiment une surprise, mais ça a le mérite d'être officiel. Dans une interview à la chaîne CNN turque, Nicolas Maduro a invité les pays européens à retirer leur ultimatum. « Personne ne peut nous donner d'ultimatum », a-t-il déclaré. Déjà hier, son ministre des Affaires étrangères parlait d'ingérence infantile face au Conseil de sécurité de l'ONU qui s'était réuni pour aborder la crise vénézuélienne. Un ultimatum qui agace décidément beaucoup de monde. En plus des chavistes, de nombreux militants d'opposition sont déçus que l'Union européenne n'ait toujours pas reconnu officiellement Juan Guaido. Le refus rapide du président vénézuélien montre qu'il n'est pas prêt d'accepter la tenue d'élections comme le demande avec insistance l'opposition. Le bras de fer devrait donc continuer cette semaine avec une nouvelle grande marche annoncée par le président de l'Assemblée nationale. L'opposant souhaite plus que jamais accroître la pression sur le gouvernement bolivarien. Il a aussi multiplié les appels à l'armée tout au long du week-end, notamment en faisant la promotion de sa loi d'amnistie via des assemblées populaires organisées sur de nombreuses places publiques dans tout le pays. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Au Brésil, le bilan pourrait être très lourd après la rupture d'une digue minière avant-hier. La coulée de boue qui s'en est suivie a tué 37 personnes. Des centaines d'autres personnes sont portées disparues. Et ce dimanche, 24 000 habitants d'une localité voisine ont dû être évacués. Une deuxième digue menaçant de céder. En France, tuée probablement par la grippe dans le Loiret. Pas moins de 6 décès depuis le début de ce mois auraient été causés par un syndrome grippal. Tous au même endroit. Un établissement de soins de la chapelle Saint-Messin dans le Loiret, où 2 salariés et 4 résidents sont morts. Dernier en date hier matin, une pensionnaire âgée de plus de 80 ans, Cyril Ardo.
C'est une personne qui avait refusé de se faire vacciner contre la grippe. Depuis début janvier, 3 autres résidents ont perdu la vie, probablement à cause du virus, sauf qu'en raison de leur âge, le lien n'avait pas forcément été fait. C'est suite au décès cette semaine de 2 salariés qui étaient en arrêt maladie pour un syndrome grippal que l'ARS a été saisie. Actuellement, d'autres résidents de l'établissement de soins sont malades de la grippe, ils sont traités, suivis, des traitements préventifs ont également été mis en place pour tout le monde, salariés comme patients, des masques ont été distribués, l'hygiène est renforcée, les contacts sont limités. Enfin, par mesure de précaution, les visites des familles sont suspendues au moins jusqu'à ce soir.
Dans ce centre de soins près d'Orléans se trouve un EHPAD abritant 78 personnes âgées. Trois des personnes décédées avaient plus de 90 ans. L'occasion pour les autorités de santé de rappeler ce soir l'importance de la vaccination antigrippale. Il installait ses invités sur un divan avant Marc-Olivier Fogiel qui a repris le concept. Le journaliste et animateur de télévision Henri Chapier est mort la nuit dernière à 85 ans. Il avait été pendant plus de 20 ans jusqu'en 2017 le président de la Maison européenne de la photographie. Après avoir été critique de cinéma, notamment à Soir 3 et par la suite sur Radio Nova.
Bonjour, c'est Henri Chapier, quelques heures avant l'ouverture du festival de Cannes. C'est un festival qui se déroule dans un tourbillon d'événements, les uns plus excitants que les autres, mais beaucoup de polémiques, vraiment.
Voilà Henri Chapier et sa voix inimitable qui avait lancé le Divan en 87, émission dans laquelle il confessait les personnalités sur le modèle d'un psychanalyste, émission qu'a donc reprise Marc-Olivier Fogiel qui a rendu hommage à son prédécesseur.
C'était un vrai grand journaliste, quelqu'un qui était curieux, qui se posait beaucoup de questions, qui avait un esprit critique, tout en ayant une bienveillance. Il s'intéressait aux autres, mais il s'intéressait au monde aussi. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé, évidemment, quand j'ai eu à l'aborder il y a des années, déjà, et puis ensuite, pour le Divan. Certes, il y avait ces portraits de personnalités qu'il faisait, et que avec ce regard si particulier, mais il y avait cet intérêt pour le monde, ce regard critique pour le monde, et toutes les questions qu'il se posait. C'est quelqu'un qui se posait des questions et qui essayait d'avoir des réponses. réponse.
Voilà, Henri Chapier qui avouait n'être jamais allé lui-même chez le psy. Il avait donc 85 ans. Son décès a lui été éclipsé par la mort de Michel Legrand, l'écrivain Éric Holder, l'auteur notamment de Mademoiselle Chambon est mort cette semaine à Quérac dans le Médoc. Il avait 59 ans. Ce soir, le président Macron lui rend hommage en saluant un orfèvre dont l'œuvre poignante et subtile accompagnera longtemps tous ceux qui aiment la langue française. Sur la route, Guillaume Fariol, des difficultés ce soir en région parisienne.
Oui, sur l'A6A en direction de la capitale, comptez 10 minutes de Vissous à la porte de Gentilly. Au nord de Paris, patience sur l'A1 avant la porte de la Chapelle. Vous restez coincé 20 minutes dans un embouteillage de 3,5 km. Bien plus au sud, dans le centre de la France, il y a 3 accidents rapprochés sur l'A75 en direction du sud. Le premier à Saint-Flour dans le Cantal. Les deux autres coup sur coup en Lozère à Saint-Chély-d'Apcher. Prudence donc dans ce secteur. Et puis le trafic est chargé sur l'A43 de Chambéry à Lyon en direction de Lyon. La circulation est compliquée juste après Chambéry, notamment où il y a un embouteillage de 2,5 km.
Guillaume Fariol, OPC Mobilité de Radio France, le temps.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Un ciel perturbé sur la plupart des régions en première partie de semaine, avec pour mardi une dépression tempétueuse accompagnée de vents forts, balayant les régions du centre-Val de Loire au nord-est et de la neige jusqu'en plaine sur une large moitié nord du pays mardi et mercredi. Demain, dans la continuité du week-end, les bords de la Méditerranée vont conserver un ciel plus serein qu'ailleurs, mais avec beaucoup de vent, y compris sur la Corse, les Alpes et les Pyrénées. Et à nouveau, pas mal d'averses à prévoir partout ailleurs. En ce début de semaine, elles seront de plus forte intensité dans le sud-ouest et sur les régions de l'est, donnant un cumul de neige important sur les Pyrénées, avec un fort risque d'avalanche pour les massifs en vigilance orange, et beaucoup de pluie sur le Piémont. À noter que la nuit prochaine et demain matin, il va neiger à très basse altitude, du quart nord-est au nord des Alpes et autour du massif central.
19h17, on passe au sport. Le journal des sports, c'est avec vous, Fabrice Rigobert, bonsoir.
Bonsoir.
Handball, football, rugby, toute l'actualité sportive du week-end. À un an des JO de Tokyo, donc pour commencer, ils n'ont plus aucun titre en poche, c'est du hand bien sûr.
Du bronze à la place d'une étoile supplémentaire sur leur beau maillot bleu, les joueurs de Didier Dinard rêvaient d'une 7e étoile. Ils doivent se contenter de leur 27e médaille internationale en bronze, un an après le bronze des championnats d'Europe battu par les champions olympiques en demi-finale. Les Français ont donc remporté sur le fil cette petite finale. Victoire 26-25 contre l'Allemagne avec un but à la toute dernière seconde d'un certain Nicolas Karabatic sur le buzzer.
J'étais quasiment à 9 mètres et je me suis dit là il faut tirer parce que j'entendais quelqu'un qui me disait tire, tire, tire. Et j'ai tiré, ça rentre, c'est magique, c'est énormément d'émotions. C'est pour ces moments-là qu'on joue, qu'on se donne à fond tous les jours à l'entraînement et sur le terrain. Et c'est pour vivre des moments comme ça en équipe et pour pouvoir célébrer ça. Donc on est très heureux, je suis très heureux. Donc ça nous donne de l'espoir, mais aussi ça nous montre qu'il y a énormément de travail à faire.
Petite consolation pour Nicolas Karabatic. Les Français vont devoir se concentrer maintenant sur le prochain tournoi de qualification pour aller décrocher leur place aux Jeux de Tokyo l'année prochaine, ce que les filles ont obtenu en remportant le titre européen au dernier championnat d'Europe en France. Et puis pour l'anecdote, ce soir, c'est le Danemark qui a remporté son premier titre mondial, 31-22 contre la Norvège dans une ambiance de feu.
Et en tout cas, il a bien fait de revenir, donc Karabatic. On passe au tennis. Il a donc remporté son 15e titre du Grand Chelem.
En 3 petits sets, 6-3, 6-2, 6-3, 2h04 aux dépens de Rafael Nadal. Une finale plus rapide que la finale dames pour vous situer le caractère expéditif de l'exercice. À 31 ans, Novak Djokovic a étrié le numéro 2 mondial pour signer son 3e titre du Grand Chelem d'affilée, un an après une opération au coude. Novak Djokovic.
Ce match se classe tout en haut. Vu les circonstances, jouer contre Nadal et réussir un match si important, c'est incroyable. Évidemment, demi-finale et finale comprises, je pense que je n'ai commis que 15 fautes directes en 2 matchs. C'est une agréable surprise pour moi, même si je crois que je peux toujours jouer de cette façon. Mais à ce niveau, comme je l'ai déjà dit, vu les circonstances, c'était vraiment un match parfait.
Novak Djokovic, numéro 1 mondial incontesté. Avec ce 15e titre, il s'affirme, Fabrice Abgral, comme le meilleur joueur du monde, tout simplement.
Il ne suscitera jamais le même engouement que Rafael Nadal ou Roger Federer, mais Novak Djokovic propose un tennis tellement accompli, proche de la perfection, qu'il est impossible de ne pas être admiratif devant un tel talent. Le Serbe n'a peut-être pas, du moins pas encore, le palmarès le plus riche, mais indiscutablement le plus complet. Comme Federer et Nadal, il a remporté tous les tournois majeurs, mais des trois qu'adore, le Serbe est en revanche le seul à s'être adjugé tous les Masters 1000. Il ne lui manque pour l'heure que le titre olympique. Alors c'est vrai, au risque de se répéter, Djokovic n'aura probablement jamais la popularité de Nadal et Federer. En revanche, côté Grand Chelem, Djokovic se pose là, en concurrent direct de ses glorieux rivaux. Le Serbe affiche fièrement aujourd'hui ses 15 titres majeurs, alors que Nadal reste à 17 et Federer plafonne à 20. Il est facile de penser qu'un jour ou l'autre, le Serbe égalera, voire dépassera l'Espagnol et le Suisse. En attendant, Djokovic sera en mai prochain le principal rival de Rafael Nadal à Roland-Garros, où le Serbe tentera de remporter consécutivement, comme en 2016, les quatre titres majeurs à cheval sur deux saisons. Melbourne, Fabrice Abgral, France Inter.
En Ligue 1 de football, un match de championnat et des inquiétudes.
Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais ce soir à partir de 21h au Parc des Princes, en match de clôture de la 22e journée de la Ligue 1 de foot. À 16 jours de son grand rendez-vous en Ligue des Champions, le PSG va jouer sans Neymar ni Verratti, en croisant les doigts pour éviter de nouvelles blessures. Bonsoir Antoine Martin.
Bonsoir Fabrice.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'heure n'est pas du tout à la sérénité côté parisien.
L'heure n'est pas à la sérénité. On n'a pas envie de voir un autre joueur du Paris Saint-Germain se blesser ce soir au Parc des Princes pour cette clôture de la 22e journée de Ligue 1. Les blessures, il en est toujours question en cette période, mais on se veut rassurant pour la cheville de Verratti qui récupère très vite d'après Thomas Tuchel. Le sort en revanche pourrait en être très différent pour le numéro 10 brésilien Neymar. Déjà blessé à ce même métatarsien du pied droit l'année dernière, c'est cet os long à l'extérieur du pied droit L'année dernière, Neymar s'était blessé à cet endroit. Il avait manqué 3 mois de compétition et actuellement les premiers diagnostics le concernant ne sont guère rassurants. On parle pour Neymar d'une réactivation de cette douleur sur ce même pied droit. Coup dur encore une fois pour les joueurs de la capitale. En attendant une dernière IRM dans les prochains jours pour statuer de son absence, Thomas Tuchel va devoir repenser ses plans. Le technicien allemand devrait faire appel à Angel Di Maria au poste de numéro 10. Julian Draxler devrait glisser dans le milieu de terrain, accompagné du surprenant Dani Alves. Le latéral de toujours s'est trouvé une place dans l'entrejeu parisien en dépit des circonstances. Du côté des mises à l'écart, c'est Adrien Rabiot qui est encore mis à l'écart du groupe ce soir. Le club de la capitale doit officialiser l'arrivée aujourd'hui d'une sentinelle de métier avec la signature de Leandro Paredes, acheté 40 millions au Zénith Saint-Pétersbourg. Ce soir donc, en guise de préparation à ce rendez-vous de Ligue des Champions face à Manchester United, c'est Rennes qui se déplace au Parc des Princes avec un Atem Ben Arfa revanchard à coup sûr. Les Bretons, dernière équipe à avoir battu le PSG au Parc des Princes en Ligue 1.
Coup d'envoi de ce match à 21h et cet après-midi, Montpellier a dominé Caen 2-0. Lyon s'est imposé à Amiens 1-0 à 20h. À suivre également ce soir, Toulouse-Angers.
L'athlétisme à la fête à Bercy.
Un mois des championnats d'Europe en salle qui se dérouleront à Glasgow. Les têtes d'affiche de l'équipe de France se sont donné rendez-vous à Paris ce soir. Renaud Lavillenie, blessé au genou, a toutefois déclaré forfait. Kevin Mayer et Pascal Martino Lagarde, Vincent Pellegrini sont les stars de ce rendez-vous ce soir.
Oui, et c'est une après-midi plutôt frustrante hein, pour les chefs de file de l'athlétisme français. Vous avez parlé de Renaud Lavillenie qui espère être rétabli pour les championnats d'Europe en salle. En revanche, Pascal Martino Lagarde n'a terminé que quatrième du 60 mètres haies. Lui qui, on s'en souvient, avait été sacré champion d'Europe du 110 mètres haies en plein air à Berlin l'été dernier. Pascal Martino Lagarde a heurté la dernière haie. Il ne prend donc que la quatrième place d'une course remportée par l'Espagnol Orlando Ortega devant le jeune Français Aurel Manga, auteur lui d'une belle course tout à l'heure. Quant à Kevin Mayer qui venait ici pour le plaisir, hein, il a échoué de peu à se qualifier pour la finale du 60 mètres haies. Il est éliminé en demi-finale et à la perche, il a échoué à 3 reprises à 5m50, mais il vient de nous le confier. Il a pris beaucoup de plaisir avec le public. Il n'avait pas vraiment d'objectif en termes de chrono ou de saut et il a donc n'a pas pu se qualifier pour la finale du 60 mètres haies. Et on le rappelle donc, Renaud Lavillenie, blessé au genou mais plutôt confiant pour les championnats d'Europe à Glasgow, le 1er, 2 et 3 mars.
Vincent Pellegrini en direct de Bercy. Le Stade toulousain s'empare de la tête du top 14 de rugby. Privé de ses internationaux en pleine préparation du tournoi Destination, les Rouges et Noirs ont dominé Grenoble 29 à 16 aujourd'hui pour prendre la place de leader devant Clermont. À l'issue de cette 15e journée, Clermont battu hier soir et La Rochelle 3e. Hugo Mola est l'entraîneur des Rouges et Noirs.
On franchira cette période délicate uniquement par l'émulation de notre groupe. Il y a eu des très très bonnes rentrées du banc de nos garçons qui commençaient pas, donc il y a beaucoup de choses positives à conserver et à construire, mais ce qui est évident, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre de l'émulation pour garder ce niveau de performance, parce que je vous promets que c'était pas aussi facile et aussi aisé que de prendre 5 points contre Grenoble aujourd'hui. On sait tous aussi qu'il nous faudra un niveau bien plus élevé pour battre des équipes comme Montpellier ou Lyon que l'on recevra à domicile.
Et ce soir, Toulon a évité la défaite devant le Stade français. Les Toulonnais, à la peine cette saison, se sont imposés 33-30, Toulon 11e du top 14, le Stade français 6e.
L'occasion de passer une petite annonce pour un joueur de rugby qui recherche un club.
C'est une pratique peu courante dans le monde du sport. À la recherche d'un contrat, un joueur de rugby pro a décidé de miser sur les réseaux sociaux pour trouver sa nouvelle destination. C'est sur Twitter que le talonneur Maxime Gau y a posté sa petite annonce. Un cas qui illustre la précarité grandissante dans le rugby d'aujourd'hui, Fanny Lechevestrier.
Annonce sérieuse indique d'entrée Maxime Gau sur les réseaux sociaux avant de préciser « motivé, bon état d'esprit, cherche club en galère de talonneur ». Un message posté comme une bouteille à la mer par le joueur de 28 ans sans club aujourd'hui après être passé notamment par La Rochelle et le Stade français.
Je trouvais ça marrant d'annoncer le fait d'être disponible pour vers un nouveau défi ailleurs. J'ai toujours envie de pouvoir évoluer en pro, avec un club qui puisse me donner l'opportunité de m'exprimer. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver du travail dans le rugby pro. Il y a beaucoup de monde pour très peu de place au final.
Et si Maxime Gau dit avoir fait cela au début un peu pour rire, sans grande illusion, il reconnaît que cela offre aussi un autre éclairage sur ce qu'est aujourd'hui le rugby professionnel, loin des paillettes.
Pour les joueurs, on va dire lambda, de retrouver un club, des contrats et tout, des fois, c'est compliqué quand ça fait quasiment 10 ans qu'on fait que ça tous les jours et que jour au lendemain, y a plus rien. Ça se trouve, dans quelques mois, il va falloir reprendre la vraie vie parce que t'auras rien du tout. Forcément, c'est compliqué à gérer.
Selon Proval, le syndicat des joueurs, quelques 800 rugbymen évoluent en Fédéral 1, la 3e division, avec aujourd'hui un salaire moyen de 1 300 € net par mois.
Une victoire française en biathlon, mais pas pour Martin Fourcade. C'est Quentin Fillon-Maillet qui a remporté la Mastart à Anterselva en Italie devant le Norvégien Johannes Bø. Première victoire en Coupe du Monde pour Quentin Fillon-Maillet. Quatrième Martin Fourcade en difficulté cette saison a annoncé renoncer aux deux prochaines étapes de Coupe du Monde pour se concentrer sur les prochains mondiaux. Sébastien Ogier a remporté pour la 7e fois de sa carrière le Rallye Auto de Monte Carlo, offrant à Citroën son 100e succès en championnat. Le sextuple champion du monde a devancé de 2 secondes seulement le Belge Thierry Neuville. Belle 4e place pour le revenant Sébastien Loeb.
Allez, pour terminer, on prend le large. Il va boucler mardi son tour du monde à l'ancienne.
C'est le sprint final qui commence pour la Golden Globe Race, le tour du monde à la voile en solitaire, sans assistance, sur des bateaux d'ancienne génération. L'arrivée est prévue mardi au port des Sables d'Olonne. Jean-Luc Vandenade, 73 ans, en tête après 212 jours passés en mer, est attendu. À terre, il y a sa compagne, Odile Lange, qui n'a pas vu son compagnon depuis 7 mois. Marc Bertrand l'a rencontré.
Et autant le dire tout de suite, l'épouse éplorée qui guette l'horizon, c'est pas du tout son genre.
Je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui m'envient de vivre 7 mois de liberté.
Avoir son homme au large, Odile Lange, elle s'y est habituée.
J'ai toujours connu comme ça, à partir pendant des longs moments. Moi j'ai ma vie ici, j'ai mon travail, j'ai mes copains.
Elle est cadre dans une multinationale à Nantes, mais entre deux réunions.
Je suis toutes les 4 heures sur mon écran pour suivre les positions. Depuis 6-7 mois, j'ai ma vie, mais rythmée par cette cadence.
Parce que la Golden Globe Race, c'est une course à l'ancienne, Jean-Luc Van Denned n'a qu'un téléphone satellite.
Mais qu'il ne peut pas utiliser en dehors des appels d'urgence.
Et une radio, par laquelle il arrive à capter les radios amateurs pour transmettre des messages à sa compagne.
Ce qu'il demande aux radios amateurs, c'est ce que je fais les week-ends ou des petites nouvelles du quotidien. Ça lui occupe l'esprit autrement que son bateau et ses bouquins, quoi.
En 7 mois, le couple ne s'est parlé qu'une seule fois directement au téléphone. Lorsque Jean-Luc Van Denned chavire, il abîme son mât et hésite alors à abandonner.
Ça a été bref, il n'était pas très causant, quoi. C'était factuel. Je risque rien, moi. Le bateau, il va pas couler. Simplement, le risque, c'est que je démate.
Il finit par repartir et aujourd'hui, à 73 ans, il est en passe de remporter la course. Dans quel état ? Odile n'est pas du tout inquiète.
Mais moi, je l'ai vu rentrer de son tour du monde à l'envers après 122 jours. Il était comme si je ne l'avais pas vu la veille, quoi.
Elle a quand même posé des vacances pour être sur les pontons des Sables d'Olonne à l'arrivée de la course.
Arrivée prévue mardi, Jean-Luc Vandenade est actuellement dans le golfe de Gascogne. Marc Slatz, le néerlandais, qui terminera deuxième, est lui attendu mercredi.
C'était le journal des sports de Fabrice Rigobert.